Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est en cyclisme. Avec l'absence de Pogacar sur la Vuelta, on se rend bien compte qu'il n'est pas si facile que ça de prendre la suite, d'assumer des responsabilités quand un grand patron n'est plus là. Même chose quand une grosse tête de série est sortie en tennis, hein, on l'a vu, hein, y a plein de garçons qui soit sont pas là à l'US Open ou qui ont été sortis là prématurément en ayant peut-être un peu plus de responsabilités. Fritz s'est passé à la trappe hier, c'est le cas pour Coboli aussi. Peut-être qu'ils avaient des possibilités, finalement ils se disent, oh là là, on a des possibilités. Peut-être que ça peut couper les jambes quand on se rend compte que ça devient possible. Même chose en Ligue 1, quand une grosse cylindrée ne marche pas et qu'il faut assumer derrière pour prendre la place. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Prendre le leadership dans le sport de haut niveau, ce n'est pas si simple. Fred, quand je t'ai proposé ce vestiaire, ça t'a parlé rapidement. On n'est pas leader comme ça, en fait.
Déjà, prendre le leadership, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on est habitué d'être un second, voire plus loin, et dans le basket parfois c'est difficile parce que il faut que ça soit crédible. Quand tu parles à tes coéquipiers, tu peux pas par exemple leur expliquer des choses quand c'est pas toi le leader naturel et que ils ont pas l'habitude de voir ça. Donc il faut que déjà
t'en as vu des...
c'est ce caractère. Moi j'ai vu
des joueurs mecs, qui faisaient les leaders.
En fait tu les vois et tu dis mais il fait du théâtre, en fait je n'y crois pas, c'est drôle, enfin c'est nul. On sent que le mec a besoin, parce que on a tous besoin d'un leader, c'est comme ça, la nature humaine est faite ainsi. Et c'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui surjoue, qui tente d'être le leader, eh ben ça devient plus crédible et finalement ça devient presque risible et il perd toute autorité. Et c'est le contraire de ce qu'il voudrait provoquer. Donc ouais, je l'ai vu plusieurs fois, des garçons qui n'avaient pas ça en eux, qui étaient des silencieux, qui étaient capables de très bien jouer au basket.
Quand ils sont mis en avant, ils s'effondrent un peu quand même.
Mais ils s'effondrent parce que en fait déjà ça leur fait un double taf. Parce que d'un seul coup, ils doivent se gérer et gérer l'équipe.
Alors qu'ils n'arrivent pas forcément déjà à se gérer.
Voilà, c'est ça. Et c'est extrêmement difficile. Mais c'est aussi parce que c'est pas naturel chez eux. Il y a vraiment cet instinct de leader qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais par contre, moi, j'ai découvert, par exemple, un leader extraordinaire en la personne de Yann Bonato.
Yann Bonato, à l'époque avant, à Limoges,
on a des gros
soucis financiers.
C'est très, très compliqué. Et c'est un garçon qui est considéré comme un égoïste dans le milieu du basket jusqu'à cette époque-là. Et d'un seul coup, on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée, comme j'ai dit, où il y a des problèmes d'argent, où le club est à deux doigts de mourir tous les jours, et il a émergé un leader. Il est devenu ce leader, il a été cette personne qu'on a envie de suivre n'importe où, cette personne qui se gère lui, qui gère les dirigeants, qui gère le public, qui gère les joueurs, parce qu'on était payé 70% moins du salaire.
C'est un profil qui a apparu dans un moment compliqué, en fait.
Alors que vraiment, ce garçon n'avait rien du tout. Et il l'a fait sans surjouer. Et c'est ça qui nous a tous convaincus.
Et toi, t'as jamais été leader?
J'ai été co-capitaine en Espagne plusieurs fois et moi je suis leader plus par l'exemple entre guillemets, c'est-à-dire que par rapport à ce que je fais, par rapport à j'aime bien chambrer les adversaires, mais c'est vrai que si moi d'un seul coup j'avais fait un discours dans le vestiaire, c'était pas crédible parce que je suis pas le genre de mec qui prend la parole devant tout le monde, harangue la foule, etc. Mais par contre, je suis quelqu'un qui t'encourage, je suis quelqu'un qui t'incite à faire mieux. Mais chacun, encore une fois, sa position.
Et t'as déjà été dans une situation avec ton équipe en Espagne, par exemple, d'un coup vous vous retrouvez en favori alors que c'était pas prévu, parce qu'en fait c'est ça ce qui se passe avec Pogacar sur la Vuelta.
C'est-à-dire
qu'il y a des seconds couteaux qui d'un coup doivent avoir un premier rôle.
Mais oui, et en fait tu te rends compte que tu es dans l'eau qui n'est pas la tienne, en fait. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Tu commences à te mettre une pression que tu n'avais pas. En fait, être outsider, c'est magnifique parce que justement tu peux te cacher un petit peu, tu peux être tranquille. Si tu fais une performance, c'est magnifique. Si t'en fais pas, tout le monde dira, oui, mais il y avait des équipes qui étaient meilleures.
Toi, t'as joué à Malaga, qui n'était pas le grand club de basket en Espagne, c'est plutôt le Real ou le Barça.
Exactement, c'était le
Vitoria.
Dans les quatre meilleures équipes d'Espagne, mais effectivement, il y a le Barça et le Real qui sont devant. Et je me rappelle que par exemple, à une Coupe du Roi, on élimine le Barça, et donc on dit, on va jouer contre Vitoria. Vitoria, normalement, c'est une équipe qui est de notre niveau ou à peu près. Et ben, on s'est fait battre parce que d'un seul coup, on s'est vu trop beau, d'un seul coup, on s'est mis la pression, d'un seul coup, on s'est dit, on va le faire, on a éliminé le Barça.
Mais vous n'étiez pas prêt, en fait.
Et en fait, on n'était pas prêt.
C'était pas votre niveau.
C'est là que tu te rends compte que on avait peut-être surperformé contre le Barça. Ça nous avait fait croire à des choses. et croire à des choses et se croire et arriver dans le réalité. Sport, ben tu prends la claque directement.
Non mais on est dans le vestiaire, la difficulté de prendre le leadership. Moi ça me rappelle un souvenir, c'est le championnat du monde d'athlétisme, finale du 100 mètres, le faux départ du Usain Bolt. Souvenez-vous, alors qu'il était le grand favori. Puis là, je me rappelle la stupeur dans le stade évidemment, mais surtout des autres concurrents. C'est Johan Blake qui avait été sacré champion du monde. Les autres concurrents étaient perdus, notamment Christophe Lemaître qui était là, qui d'un coup avait une possibilité extraordinaire de faire une médaille, mais même potentiellement d'être champion du monde. C'est-à-dire que t'es dans un monde inconnu d'un coup, brutalement, et tu dois assumer la responsabilité, Bennett. C'était déjà arrivé, toi, ça, de cette confrontation, cette, avec la réalité de devoir endosser un rôle ?
Non, mais là, ce que tu décris, c'est encore différent. Parce que
c'est pas au sein d'un groupe.
Et c'est en général, c'est de devoir prendre un premier rôle en fait. Quand t'es pas programmé à ça en fait.
Là, c'est soudain. Après, il y a deux choses différentes. C'est dans une compétition, comme tu dis là, un forfait ou la blessure de Pogacar ou là nous dans le tennis masculin et même dans le tennis féminin. Des tableaux très ouverts pour pouvoir gagner un grand chelem avec beaucoup de joueurs potentiels et il y en a qui se plantent. Et là, on l'a vu.
Toi, tu regardais le tableau avant, tu disais mon tableau il est ouvert.
Moi, je regardais en grand chef, je regardais pas trop le tableau,
ouais.
Parce que j'étais pas souvent tête de série. Quand j'étais tête de série, je savais qu'à un moment donné, ça se bouchait. Et moi, ça s'est toujours bouché. J'ai joué 8 fois de suite au 3e tour une tête de série entre 1 et 8. Donc,
parce que parfois, tu peux regarder le tableau et te dire ah. Peut-être que j'ai une opportunité. Et ça peut te mettre la pression, justement.
Oui, ça peut te mettre la pression.
Mais ça se fait pas. Mais parce que tu vois un match après l'autre. Enfin, ouais.
Surtout,
tu projettes pas.
C'est tellement loin.
Ah oui, oui.
Mais tu vois, là, les OG Eliassim, Fritz, Jodar, Arthur Fils, oui, avant le tournoi, ils étaient propulsés dans une autre sphère de potentiel vainqueur.
Bah,
effectivement, là, le rôle de l'entourage, il est hyper important dans la préparation, peut-être changer un petit peu de discours et de dire. Okay,
mais justement, changer de discours, pas conserver justement.
Il y a une possibilité.
Tu vois, c'est la vraie question dans votre sport. Est-ce que quand tu commences à performer, tu changes de discours ou justement tu gardes le discours justement pour garder les pieds sur terre et avoir la même routine entre guillemets.
Parce que quand tu tapes Federer, par exemple, tu tapes Federer à Bercy, ouais. C'est ça? Tu peux dire derrière, ouais, je viens de taper Federer.
Ouais, mais le lendemain, le problème,
je suis dans un autre monde.
Non, parce que le problème de notre sport.
Il faut que j'assume. En fait, j'ai une responsabilité à assumer.
Non, c'est non. Pas une responsabilité.
Comme Gasly qui d'un coup est en pole position. Ouais, je suis en pole.
Mais moi, je savais que le match du lendemain, il allait être plus dur que celui de Federer. Quand je sors et que je le bats le mercredi soir, et il est 21h30, 22h, je suis dans les vestiaires. Je joue Gaël Monfils à 18h, le lendemain c'est à Bercy.
Mais c'est ton logiciel, ça peut, c'est potentiellement pas le logiciel de tout le monde. Il y en a qui peuvent gagner un Masters 1000 et se dire peut-être je suis arrivé.
Non. Non.
Quand tu réalises un exploit en tennis, tu sais que le coup d'après, tu vas devoir faire un exploit encore plus grand.
Gaël parce que disait mondial.
Ça se resserre et t'es les meilleurs à la fin.
Et c'était hyper dur de jouer Gaël. Et d'ailleurs, j'ai perdu. Mais parce que pour moi, Gaël, c'était avec mon style de jeu, c'était plus compliqué dans la scène de Bercy, etc., que de jouer Federer.
Parce qu'en fait, ce que dit Fred, c'est un peu, c'est soit tu gagnes, t'arrives à surperformer, tu prends le boulard.
Mais c'est ça.
En fait, soit t'es confronté à un moment de leadership et t'es confronté à la réalité de ton niveau.
Moi,
en fait.
J'ai un exemple très concret, j'avais déjà
arrêté.
L'équipe de France en 2019 bat les États-Unis dans la Coupe du Monde, d'accord? Donc tout le monde se dit que c'est fait, et eux-mêmes aussi. Ben, ils vont jouer contre l'Argentine, et ils vont perdre contre l'Argentine, en fait. Et en fait, c'est difficile d'un seul coup de passer de ben, c'est les États-Unis, c'est impossible qu'on gagne, tu gagnes, et le lendemain te remotiver et retrouver les ressorts qui t'ont permis de gagner contre une équipe qui est soi-disant plus faible que toi. Mmh. Et c'est là que je me pose la question dans le tennis. Si tu bats Djokovic, Federer, peu importe, est-ce que quand t'enchaînes, t'arrives à te dire ok, bah c'était juste une étape, ou à un moment tu dis ah, c'est Federer quand même.
Non, parce qu'on est vite.
T'es vite dans le moment présent du match. Ouais. T'as pas le temps d'avoir cette réflexion là. Peut-être que quand tu fais un sport ou quand tu gagnes un titre de champion du monde ou un titre de champion d'Europe, t'as un laps de temps qui fait que tu digères. Il y a pas de digestion. Encore une fois, même quand tu gagnes un tournoi, ouais. Quand tu finis en gagnant un tournoi le dimanche soir et que tu dois rejouer le mardi. Mais sur un tableau de 32, t'as 31 mecs ou 31 nanas qui ont envie juste de te cirer. Donc en fait, ton titre, il est déjà passé. Ce sera juste une ligne dans
ton
palmarès.
Ah oui, c'est hyper éphémère.
Et tu vois sur ton compte en banque ce qui se passe. Mais en fait, tu remets tout à
tu
zéro.
Tout à plat,
t'as pas
vite,
le temps d'avoir
le temps.
La grosse tête.
Mais vous avez tous cette capacité, parce que moi, je trouve ça extrêmement difficile.
Mais
tu gagnes un Master 1000, qui est quand même une compétition incroyable. Et le lendemain, Arthur tu rejoins.
Mais là, Arthur tu te retournes, tu as l'US Open.
Ouais, exactement, le problème, c'est ça. Arthur Fils, il a gagné le dimanche. Il a dû partir le lundi de Cincinnati à New York. Il a pris un jour off, là. Et le mardi ou le mercredi.
T'es déjà.
Ouais, mais il est parti pas avec le même statut, en plus. Il est passé de.
Il est devenu un leader.
Exactement. Mais après, il y a des leaders.
Parce qu'il y a ça aussi pendant le match, par exemple. Excuse-moi, Bennett. Non, mais je réfléchis à son match pendant Tsitsipas, par exemple. Quand ça lui échappe, est-ce que dans sa tête, tu peux te dire, non, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai atteint un rang. C'est la honte si je me fais sortir maintenant. Tu vois, c'est ça, en fait, où quand tu prends un certain leadership, ça peut aussi te freiner, en fait.
Ça passe cette condition-là. Ton conditionnement mental au tennis, il n'est pas du tout là-dedans.
Tu penses jamais à ça? Pensez pas trop à ça? Parce que souvent, moi, je me pose la question. Fritz, hier, je me suis posé la question, l'américain, quand il est sur le point Arthur H. Je me dis, mais à un moment donné, il se dit, mais attends, je suis en train de me faire taper par Cerundolo sur le central. Alors que je suis un des favoris.
Nadal, 14 titres du Grand Chelem, il est arrivé la première.
Et tu ne penses pas à ton rang quand même?
Jamais.
Au rang que tu dois défendre.
Arthur
Fils a dit en Masters la dernière fois, il faut que je fasse respecter mon rang. C'est-à-dire qu'il pense quand même.
Oui, mais c'est pour la com.
Certains, ils pensent quand même.
Le numéro que tu as en face de ton nom, ça n'a rien à voir.
Et puis au tennis, si tu penses comme ça, c'est le meilleur moyen de te planter.
Oui, mais quand tu sors d'une victoire, d'une performance, de quelque chose d'assez extraordinaire.
C'est bien fait. C'est d'avoir joué.
C'est dur de basculer aussi rapidement. Je sais pas comment.
Après,
comment
les très très grands qui sont déjà leaders, mais qui sont en combat avec des mecs de leur camp. Quand il y a une fenêtre qui s'ouvre, il la loupe pas. Je m'explique. Federer en 2009, Nadal il paume.
Ouais.
À Roland contre Söderling.
Et là il se mentalise pour aller gagner le tournoi là.
Ouais. Bah là, le soir même, il sait que c'est sa seule chance de gagner.
Mais là, on parle d'un mec qui est programmé. Une expérience derrière lui.
Moi, j'ai une question pour Zverev. Zverev, quand il se retrouve à Roland-Garros, c'est que ça se passe comme. Ouais. Comment il fait pour basculer? La pression qu'il a, elle est énorme.
Il a galéré. Il a gagné des matchs pendant le tournoi, c'était compliqué. La finale, c'était horrible.
Jusqu'au bout.
Mais il a saisi son truc.
Ouais.
Il l'a fait.
Et là, on voit le mental d'un champion.
Ali sur WhatsApp est un peu provoque. Il dit, vous parlez surtout d'un mal du sportif français parce que dans les autres pays, les gars ne se posent absolument pas la question du leadership. Ils sont là, ils font ce qu'ils ont à faire. S'ils doivent gagner, ils n'ont rien même pas derrière eux. Savoir s'ils ont le moteur ou quoi que ce soit.
C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Il faut arrêter avec ce vieux truc. On trouve que les sportifs français ont énormément progressé.
On assume de plus en plus le statut de leader.
Bien évidemment.
Wemby,
on le dit ouvertement. À 19 ans quand même, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Sur le Tour de France, il devient le patron de l'équipe. On sait que tout repose sur lui. Bah, il a assumé son truc. Il termine 4e du Tour à 19 ans. Si c'est pas assumé.
Mais il y a un autre truc, c'est que maintenant les sportifs l'assument, mais que de toute façon l'opinion publique le refuse parfois en disant ouais il se la raconte et on a cette problématique en France par contre inverse, c'est-à-dire que avant on n'assumait pas, maintenant on assume de plus en plus, on le dit même ouvertement et on est critiqué parce qu'on le dit ouvertement.
Tu veux dire quoi, il y a une éducation à refaire en fait.
Il y a une éducation aussi de nos suiveurs. Ali, s'il te plaît,
sur la culture sportive,
s'il te plaît, progresse sur ça, Ali.
Non mais Sarah, toi, quand le tableau s'ouvrait par exemple, c'était plus difficile.
Non, c'est même pas une question s'ouvrait, c'est un match après l'autre en fait. Tu te projettes surtout pas. C'est le meilleur moyen de rentrer et d'oublier que t'as un adversaire.
On prend les matchs les uns après les autres.
Oui,
c'est les points,
tu penses à un moment quand tu commences, quand t'arrives au bout d'un match et que tu commences à avoir le bras qui tremble, que ton esprit il est brouillé, tu sais plus comment tu veux jouer alors que tu mènes 5-2 au 3e ou 5-4, la première chose qu'on apprend c'est tu joues
chaque point,
après le point, tu fermes.
Tu t'embarques vite en disant bon là j'ai quasiment gagné ce jeu.
Alors moi j'avais un entraîneur et il m'avait donné un truc à un moment donné, c'est quand tu te fais un peu reprendre et que c'est dur à la fois mentalement et physiquement. Il me parlait, il me disait allez 30 minutes. Et il me dit fais l'effort 30 minutes. Il te reste 30 minutes. En gros un set c'est 30-45 minutes. Ouais. Et quand c'était une manière aussi de te reconditionner.
En fait, ça te sort de la pression du résultat que tu dois avoir.
Il te reste 30 minutes, il faut que tu tiennes pendant 30 minutes.
Fais l'effort, allez, voilà. C'est dur. Ok, il voit que c'est dur, etc.
Mais parce que t'étais marqué physiquement
ou mentalement, par le scénario du match et aussi physiquement. Et là, quand il recentrait le débat là-dessus sur la durée, tu te disais, bah ouais, ok, ça fait 2h30, 3h que je joue. Allez, il me reste 30, 35 minutes. Je les ai.
Objectif court, en fait.
Exactement. Mmh. Et ça te matérialise et ça m'aidait à pouvoir me remettre dedans.
Dans 30 minutes, en fait, je suis au vestiaire, je suis peinard, ouais. Je bois un coup.
Exactement.
Je pense à autre chose.
Là, si je gagne, moi, regarde, tu fais l'effort. Mais regarde, si tu fais l'effort comme un dingue, exactement ça. Dans 35 minutes.
Des objectifs à court terme.
T'es dans les vestiaires, t'as gagné. Et tu vas être super content et de ressentir ce que tu peux ressentir. Et ça te redonnait un peu d'énergie, ouais. De trucs, de la concentration.
Moi, j'avais un petit mot qui était sans a priori et sans jugement, ici et maintenant. C'est-à-dire que dès que le point était terminé, d'essayer d'enlever, et je le lisais à chaque fois que j'étais au changement de côté, pour essayer de rester dans le présent, d'enlever si t'avais foiré ou au contraire, t'avais bien joué, t'avais gagné deux jeux.
Mais t'y arrives à chaque fois?
Tu combats.
Mais c'est la théorie. Sur la pratique, tu arrives pas tout le temps, mais au moins ça t'aide.
Mais au moins, t'essaies de mettre ton esprit dans la bonne direction.
C'est le truc qui te tient, quoi. Ça marche pas à chaque fois, mais c'est ce qui te drive un peu.
Mais moi, ce qui est bien, c'est que dans le vestiaire, du coup, je comprends des choses. Avec Christophe, on comprend des choses. Le sujet, c'était la difficulté de prendre le leadership. En fait, pour devenir un leader, il faut pas y penser. Il faut juste assumer le moment et voir.
Le prouver sur le terrain.
Le prouver sur le terrain. Et le résultat, une fois qu'on est sorti du terrain, sera juge de la situation.
C'est les autres qui te mettent dans un rôle de leadership. Mais si toi, tu restes dans le présent, tu restes dans ta performance.
Ouais. Là, normalement, ceux qui nous écoutent, qui sont au 10e kilomètre, ils vont aller jusqu'au 40e, je vous le dis, parce qu'ils pensent à aller 1 km, 1 km, 1 km, 1 km.